Bonjour, réécoutez-vous vivre et lutter avec Radio Quinquin, semaine anniversaire sur Radio Scarpe Sensé. Et nous nous retrouvons aujourd'hui à la médiathèque Aragon à Obi pour une émission débat après la projection du film de Gilles Perret, La Sociale, débat sur la sécurité sociale et la réforme des retraites. Nos invités, Dominique Benne, responsable protection sociale pour la CGT, Pascal Zabot, responsable protection sociale de l'UD Nord CGT, Michel Salingue, syndicaliste FSU, ex-secrétaire général de la Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique, et Bernard Lamirand, animateur national du Comité National de Reconnaissance d'Ambroise Croizat. Et c'est d'ailleurs à vous, Bernard Lamirand, que je pose cette première question. Finalement, les jours heureux, le programme du CNR, c'est fini aujourd'hui ou peut-on encore y croire ?
On le dirait plus que jamais, surtout quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Et cette volonté de... Vous avez entendu le réactionnaire, là, de tout foutre par terre. Et en même temps, vous avez pu entendre auparavant Kessler, c'est celui qui a dit quand... Sarkozy est devenu président de la République. Il a fait une injonction en tant que vice-président du MEDEF. Il faut détruire la sécurité sociale mise en place par les communistes et les gaullistes en 1945. Et donc, il y a toute cette période de bonheur qui a existé à la libération. Mais aujourd'hui, on a besoin de bonheur. On n'a pas besoin de cette souffrance au travail, de ce chômage, de cette volonté de casser la santé, de casser les retraites, de casser les allocations familiales, de considérer qu'on doit être des moins que rien, et que ce qui compte, comme ce réactionnaire l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il rentre dans ses sous, qu'il fasse des affaires, du bénéfice, du profit. On en est là aujourd'hui. On a besoin, effectivement, de bonheur.
Pourquoi c'est compliqué que de faire penser que la santé n'est pas un bien commercialisable et c'est pas un bien qui doit être rentable ? Ça paraît évident et on entend encore ce type de discours.
Oui, mais c'est parce que la bataille idéologique... Alors, ça a été dit tout à l'heure. Est-ce qu'on n'a pas eu, à un moment donné, de relâchement sur ces questions-là ? Oui. Je pense que la sécurité sociale, à un moment donné, est devenue une sorte de bureau, de caisse où on reçoit des cotisations, on paye des cotisations et puis on reçoit... Des prestations, tout simplement. La question, c'est effectivement de remettre la sécurité sociale aux travailleurs. Elle l'était à la Libération. Vous avez entendu Frégonard. Bon, il est décédé maintenant. Hein. Je ne sais même pas s'il a pu avoir l'occasion de voir le film. Il est mort quelques mois plus tard. Vous avez vu aussi Liliane Croizat. Elle est morte également depuis ce temps-là. Hein. Mais... Oui, on a véritablement besoin de retrouver nos marques. Et ces marques, c'est la solidarité. J'y reviendrai tout à l'heure à l'occasion par rapport, on est à plusieurs, sur le rapport de Levoy. Je suppose que là, on aura des choses à se dire. Mais Croizat était effectivement l'homme qui a permis, pas tout seul, ça a été dit, mais celui qui a fait en sorte, et puis j'en termine, qui a fait en sorte que la sécurité sociale naisse. Parce que vous savez, à la Libération, en 1945, bon, il y a eu cette ordonnance qui a été pas signée par le général de Gaulle. Ce jour-là, il est parti à Moscou. Il a fait un voyage. C'est Parodi qui l'a signé, cette ordonnance, vous voyez. Et donc, à ce moment-là, Croizat va devenir ministre du Travail, pas de la sécurité sociale. Mais auparavant, à Alger, il travaille sur la sécurité sociale. Et donc, quand il arrive au pouvoir, puis j'en termine, la volonté à l'Assemblée constituante, c'est de se dire les ministres communistes ne vont pas rester longtemps, la guerre froide commence, on va bientôt être débarrassé d'eux, on pourra reprendre nos habitudes. Et Croizat, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va voir tous les camarades de la CGT dans les unions locales, il va leur dire il faut construire immédiatement les bureaux de sécurité sociale, faire des adhésions. Et donc, c'est comme ça que ça démarrait, immédiatement. Il les a pris de vitesse. Sinon, cette sécurité sociale n'aurait pas vu le jour et on aurait repassé aux mutuelles.
Est-ce que cette vision comptable, elle a toujours existé ou c'est quelque chose qui est arrivée récemment et qui est de
plus en plus forte. Elle est arrivée avec les ordonnances de 67, tout simplement. Ça a été dit également dans le film, vous voyez. C'est les ordonnances de 67 du général de Gaulle, d'ailleurs, qui fait en sorte de la séparation des risques. C'est en fait le projet de 51 du MEDEF. À cette époque-là, ce n'était pas le MEDEF, c'était le CNPF.
Et d'expliquer que de faire comprendre que finalement, mes cotisations ne sont pas des charges, mais finalement un droit à l'accession aux soins. C'est compliqué, ça. Aujourd'hui, on nous dit, ouais, ça pèse sur le pouvoir d'achat des Français, parce que sur leur fiche de paye, il y a le prélèvement. Ça pèse également sur l'économie, parce que il y a les cotisations patronales. Mais finalement, c'est un salaire différé, c'est un salaire commun. C'est pas dans l'air du temps que d'expliquer ça. Les gens veulent pas l'entendre. Aujourd'hui, il y a le besoin d'immédiateté. Je veux tout de suite percevoir le fruit de mon travail et sans me poser de questions.
Ça, c'est l'individualisation. C'est ce qu'ils veulent faire avec la retraite par points, mais mes camarades, là à côté, ils y reviendront certainement. Mais par rapport à ce système de solidaire et la cotisation, c'était une bataille aussi de croisade. Parce que dans le débat à l'Assemblée constituante, la volonté, ce n'était pas la cotisation, pour certains. C'était faire en sorte que ça repose sur l'impôt. Et c'est Croizat qui impose, avec ses camarades, et puis dans l'Assemblée constituante, il y a un rapport de force. Le rapport de force, c'est qu'effectivement, les communistes ont un poids très important. Et donc, c'est la cotisation qui l'emporte, vous voyez. Et cette cotisation, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est quelque chose de très précieux, parce qu'on veut passer, notamment, des cotisations dans lesquelles ça permettait des prestations définies. Aujourd'hui, on veut passer à des cotisations très limitées. Mais ça, on y reviendra là-dessus. Je n'ai pas mangé le pain de mes amis et camarades. Et dans laquelle on passe donc des prestations définies, ou mieux, aux cotisations définies. C'est-à-dire que tout est bloqué. Mais on y reviendra.
Dernière question aujourd'hui. Est-ce que, finalement, la solidarité, ça existe encore ou c'est un douleur? Est-ce qu'on peut vraiment y croire dans un état solidaire?
Oui, je pense que c'est un peu comme le bonheur, c'est d'y revenir, parce que c'est la chose, c'est y compris faire en sorte. La solidarité, c'est l'égalité aussi, et la solidarité était mise en place à la Libération. Quand à la Libération, les anciens n'avaient rien du tout en retraite. Donc, c'est les actifs de cette époque qui ont, par leur cotisation, payé les retraites. Mais avec un engagement, c'est que cette chaîne de solidarité se continue et que les actifs de demain deviennent des retraités, reçoivent aussi l'engagement qui a été pris quand ils étaient en activité.
Que des Français aujourd'hui, salariés, renonce à se soigner parce que ça coûte trop cher. On peut encore le tolérer longtemps, ça?
Non, il faut se battre là-dessus, parce que c'est faux. Parce que, y compris quand on ne se soigne pas, eh bien c'est là que ça coûte encore plus cher. On le voit aujourd'hui, d'ailleurs, hein, tout simplement.
Et la prévention.
Il y a la prévention. Et la prévention, il y a tout ça. Il y a plein de gens qui ne se soignent pas. Et quand on voit actuellement les mesures du gouvernement, de faire en sorte que des gens, notamment les migrants, qu'on ne soignera plus, qu'on ne paiera plus, mais ça va faire en sorte que ça coûtera au bout encore plus cher, tout simplement. Mais la santé, ce n'est pas une charge.
C'est un droit aujourd'hui.
C'est un droit, oui.
On va parler de retraite également. On va passer peut-être très vite d'un sujet à un autre. Voilà, alors... vous présentez peut-être l'un et l'autre nos deux intervenants ce soir sur cette réforme des retraites dont on va expliquer le mécanisme actuel et celui qui est envisagé.
Alors moi je suis Pascal Zabot, je travaille à la Caisse primaire d'assurance maladie Lille-Douai et je suis chargé de la protection sociale au sein de l'Union départementale Nord-CGT.
Et avec nous également.
Alors, Michel Salin, moi je suis un syndicaliste de tout temps, ancien syndicaliste, enfin toujours syndicaliste à la FSU, ayant occupé des responsabilités nationales et ayant rencontré plusieurs fois notre ami, entre guillemets, Jean-Paul Delevoye.
Alors, d'abord, cette réforme, d'abord, dans un... Pardon ?
C'est une contre-réforme.
C'est une contre-réforme. Exactement. C'est quoi la différence entre une réforme et une contre-réforme ?
La réforme, ça améliore les choses. La contre-réforme va faire en sorte que les droits des retraités vont diminuer.
Ce qui change beaucoup par rapport aux changements qui ont déjà eu lieu, c'est qu'on est véritablement sur une réforme structurelle, c'est ça ? Non pas à la marge, on ne va pas bouger des taquets. On repense toute la philosophie du système de retraite.
Tout à fait. C'est une réforme systémique, c'est-à-dire qui s'attaque fondamentalement au système. Toutes les réformes que nous avons vécues depuis 1993, et il y en a eu déjà 5, je crois, si je ne me trompe pas, 4 ou 5, c'était ce qu'on appelait des réformes paramétriques, c'est-à-dire qu'on changeait le curseur. On faisait bouger l'âge de départ à la retraite, on faisait bouger le nombre d'années nécessaires pour avoir une retraite complète, etc. Mais fondamentalement, la pension restait accrochée au salaire. Avec cette réforme systémique des points, la pension décroche totalement des salaires. Elle sera calculée en fonction de points. Alors, très rapidement quand même, pour qu'on comprenne bien, il y a deux valeurs. Il y a le moment où on achète le point, c'est-à-dire où tu verses ta cotisation, perçois des points. On te dit aujourd'hui, le point, il vaut 10 euros. Donc, tu as tant de points avec ta cotisation. Et demain, le point, il vaudra 12 euros. Donc, tu auras moins de points. Et à la fin de ta carrière, tu auras donc beaucoup moins de points que prévu. Et puis après, il y a la valeur de service du point, c'est-à-dire combien il vaut au moment où tu pars à la retraite. Et bien là aussi, c'est variable. C'est-à-dire qu'à 6 mois avant de partir à la retraite, le salarié sera incapable de savoir combien il va toucher. Troisième effet qui se coule, le point peut ensuite varier au cours du temps. On a vu le cas avec nos camarades de Suède. La Suède a vécu une réforme par point en 1994. On a du recul, on a 25 ans de recul sur ce système. Et bien, que s'est-il passé ? Le taux de remplacement, c'est-à-dire le pourcentage que représente la pension par rapport au dernier salaire, a chuté considérablement en Suède. Ensuite, les retraités suédois ont vu leur retraite baisser trois fois. Et puis, quand on regarde le taux de pauvreté chez les retraités aujourd'hui en Suède, il est le double du taux de pauvreté des retraités en France. Voilà sur le fond déjà.
Voilà. Alors, généralement, on nous dit également, oui, mais aujourd'hui, on travaille de façon plus tardive, on rentre plus tard dans la vie active et on vit plus longtemps. Alors, en plus ou moins bonne santé, ça se discute. Mmh. Mais ces paramètres, est-ce qu'ils doivent être aujourd'hui pris en compte ou alors c'est une vue d'esprit ?
Alors, quand on nous dit... on vit plus longtemps, il faut donc travailler plus longtemps. Ça semble frapper au coin du bon sens, dit comme ça. Mais quand on regarde ça en perspective historique, c'est une connerie. Regardez un peu l'histoire du salariat depuis, on va dire, la moitié du 19e siècle. À cette époque-là, on travaillait 15 heures, 16 heures par jour. On travaillait tous les jours, sans arrêt. Il n'y avait pas de retraite, il n'y avait pas de congé payé, rien du tout. La journée de travail, 15-20 heures. On est passé progressivement, souvenez-vous, au début du XXe siècle, de la bataille pour la journée de 8 heures. Donc on a réduit le temps de travail à la journée. Ensuite, on a réduit le temps de travail à la semaine. Il y a eu les 40 heures, puis les 35 heures. On a réduit le temps de travail sur l'année, 15 jours de congé payé en 36, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines aujourd'hui. Et puis on a institué la retraite en 45, 65 ans, puis 60 ans. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a toujours diminué le temps de travail et en même temps, on a augmenté les salaires. Pourquoi ce qui a été possible pendant 150 ans ne le serait-il plus aujourd'hui ? Vous voyez que c'est une connerie.
La démonstration est faite. Autre question. Je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus longue. C'est pour ça que j'ai été surpris. Pardon. Mais sa brièveté, en tout cas sa simplicité, est redoutable. On nous dit également que ce nouveau mode de calcul de la retraite va favoriser notamment les mères de famille. Ça,
c'est vrai, c'est pas vrai, en nous disant celles qui ont dû abandonner le travail pour élever les enfants, pour prendre du temps, elles vont mieux s'y retrouver.
Le système actuel fait en sorte que toutes les périodes de maternité notamment sont mises en parallèle, mais sont validées. Elles sont validées, mais non cotisées. C'est peut-être un peu technique. Elles sont validées, c'est-à-dire qu'elles sont considérées comme étant travaillées, mais on n'en tient pas compte dans le calcul de la retraite. Le système actuel va faire en sorte de considérer qu'une personne comme une femme qui est en arrêt maternité, on prendra en compte son arrêt maladie dans le calcul. Et qu'est-ce que ça va faire ? Cette période de maternité sera moins cotisante, il y aura moins de points gagnés pendant la maternité qu'en période de salaire. Donc au bout du bout, toutes ces périodes de maternité vont faire en sorte que la retraite des femmes va diminuer. Il y aura certes une majoration de 5% par enfant pour la retraite. Ce 5% par enfant peut être mis sur un des deux parents. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un bon calculateur, un bon économe, dans un ménage normal? On fait en sorte de mettre les 5% sur la pension qui risque d'être la plus élevée. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que les 5% sont majorés sur la pension de celui qui gagne le plus. Donc dans 80% des cas, ce sera l'homme qui va bénéficier de cette majoration au détriment de la femme. La seule façon d'équilibrer la retraite des femmes et des hommes, c'est simple. C'est de faire en sorte que les salaires soient équivalents pour les hommes et les femmes. Il n'y a pas 36 solutions. Déjà qu'en termes de cotisation, si on mettait les femmes au même salaire que les hommes, ce serait 5 milliards d'économies pour la sécurité sociale. Enfin, 5 milliards en plus pour la sécurité sociale. Donc c'est déjà faux de dire que les femmes seraient favorisées avec ce système actuel. C'est un non-sens, c'est du faux, c'est de l'intox. Comme c'est de la tox sur beaucoup de sujets au niveau de la contre-réforme de Levoix.
Alors ce qu'on appelle de façon courante et peut-être avec un raccourci redoutable les régimes spéciaux qui feraient entendre que certains sont nantis, on pourrait peut-être parler de régimes négociés, aujourd'hui ça donne le sentiment d'une inégalité entre les travailleurs et leur droit à la retraite. Qu'est-ce que vous en pensez,
vous ? C'est bien ce que vous dites d'ailleurs, c'est un sentiment d'inégalité. Même Jean-Paul Delevoye dans son rapport nous dit « les Français ont un sentiment d'inéquité » à propos des régimes spéciaux.
Si l'inéquité, ce n'est pas l'égalité des gens.
Ce n'est pas l'égalité, non. Mais ensuite, quand on regarde, il y a eu un rapport du COR, le Conseil d'orientation des retraites, il y a quelques années, qui avait fait un calcul, qui avait montré que, à qualification égale, à carrière égale, qu'on soit dans le régime général ou dans un régime spécial, la pension était à quelques euros près la même. Donc il n'y a pas d'inégalité. Ensuite, effectivement, les régimes spéciaux existent. Ils existent, et on l'a montré d'ailleurs tout à l'heure, parce qu'il y avait des régimes de retraite qui préexistaient aux ordonnances de 1945. Je pense en particulier aux cheminots, je pense aux mineurs, hein, entre autres, et d'autres encore, aux électriciens, gaziers, etc. Hein, voilà,
45 qui ont, les mineurs.
45 les mineurs. Donc qui ont souhaité conserver leur spécificité. Mais encore une fois, il y a aussi dans ces régimes spéciaux qui sont liées à des spécificités du travail. Je pense aux cheminots avec les contraintes horaires, les dimanches, oui, les jours de fête, etc. 365 jours par an que ça travaille la SNCF. Donc c'est tout cela qui est pris en compte. Puis ensuite, il ne faut pas non plus en faire toute une tartine. Les régimes spéciaux, ça représente 3,4% des salariés actifs de ce pays. Alors il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Dernière chose que l'on peut dire, eh bien, s'ils trouvent que les régimes spéciaux, c'est si bien que ça, eh bien, qu'on aligne tout le monde sur les régimes spéciaux.
Il y a 270 000 personnes qui travaillent salariées à la SNCF. Il y a un peu plus de retraités à la SNCF. On ne fait pas une réforme, une contre-réforme pour aussi peu de personnes. C'est un non-sens. C'est de la tox. On essaie de monter les Français les uns contre les autres, les fonctionnaires contre le privé, etc. On parle même de la clause du grand-père, c'est-à-dire qu'on est en train de faire en sorte de monter les actifs contre leurs petits-enfants. C'est quand même dramatique. C'est du n'importe quoi, les arguments du gouvernement actuellement.
Bernard Amiran.
Oui, par rapport justement à ce que Delevoye lance autour de l'équité, je reviens sur Croizat encore une fois. Croizat, à cette époque-là, se trouve quand et mis en place le régime de sécurité, la généralisation de la sécurité sociale à tous les Français, parce qu'en 1946, Croizat fait une proposition de loi qui va être votée presque à l'unanimité, de généraliser les retraites à tous les Français. Ça a été dit dans le film, et les salariés, mais aussi les professions libérales, etc. À cette époque-là, effectivement, un certain nombre ne voudront pas y adhérer. Et puis en même temps, il y en a qui sont effectivement au-dessus. Et Croizat dit la chose suivante, parce que c'est le pays vient d'être libéré, l'économie est complètement détruite par terre, le pays est véritablement dans un sale état. Il dit, mais la sécurité sociale, la retraite, on démarre à tel niveau, mais avec cette volonté de rejoindre les régimes les meilleurs. Et aujourd'hui, ce que Delevoye est en train de faire, tout simplement, c'est de ramener les meilleurs régimes, tout ce qui est au-dessus, à une sécurité sociale rabaissée, puisque cette sécurité sociale retraitée, il est en train, en même temps, depuis 1967, tous les pouvoirs de l'abaisser, c'est-à-dire d'arriver à un minimum, parce que derrière vient cette idée de remplacer la retraite telle qu'elle est avec la sécurité sociale et avec les retraites complémentaires, de le remplacer par des fonds de pension. Parce que, et avec un minimum de retraite, alors c'est là qu'il invoque les 1000 euros, 85%, puis je termine là-dessus, avec cette idée, mais tout le monde pense qu'ils vont avoir 1000 euros, mais c'est sur le nombre d'années de travail. Si, c'est le taux plein, pour ainsi dire. Et quand on est en précarité, il y a des périodes de chômage, il y a des périodes de travail, il y a tous les gens en contrat à durée déterminée, il va y avoir la différence. C'est en fait le minimum contributif qui va être là. Et on retrouvera des gens à 400-500 euros. Une dernière petite chose aussi. Le point. Le point qui change complètement le système, puisque c'est là l'individualisation, c'est plus la solidarité. Le point, c'est en fait, on donne des points que si on travaille. Quand on ne travaille pas, on n'a pas de points. C'est-à-dire ceux qui sont au chômage, ceux qui sont en maladie, ceux qui sont en maternité. Là, c'est un autre système qui apparaît avec l'impôt, sera un minimum, qui sera des points gratuits, mais qui seront décidés par le gouvernement et qui peuvent réduire comme ils veulent.
Aujourd'hui, le risque, c'est quoi? C'est de voir le monde de la finance s'emparer du financement des retraites et d'en faire un business concurrentiel?
Absolument. Il y a quelques années est sorti la Commission européenne le livre blanc sur les retraites. Qu'est-ce qu'il disait? Que dit la Commission européenne? Elle dit que les retraites doivent être constituées de trois piliers. La retraite de base, type sécu, les 1000 euros que tu évoquais tout à l'heure. Et puis après, une retraite complémentaire par capitalisation payée par le payée partiellement par le patron, la retraite d'entreprise, qu'ils appellent ça. Et le troisième pilier, c'est la surcomplémentaire que le salarié se fait lui-même par capitalisation. On voit bien que dans ces trois piliers, il y a deux piliers par capitalisation. C'est ça l'objectif premier. Deuxième objectif de ce gouvernement, alors c'est d'abord se plier effectivement à la Commission européenne, mais aussi le gouvernement nous dit, écoutez, les retraites, c'est trop cher. Ça fait 13,8% du PIB, du produit intérieur brut, l'ensemble des richesses produites dans une année. C'est trop. Alors, Delevoye nous dit, on ne va pas augmenter la dépense dans ce domaine. Sauf que aujourd'hui, les retraités, c'est 25% de la population française. Et que dans les années 2040-2050, ce sera un Français sur trois, 33% de la population. C'est-à-dire qu'on va augmenter le nombre de retraités. Le nombre de retraités va augmenter. Le gâteau à se partager reste le même. Ça veut dire que la part de chacun va baisser. Et c'est comme ça qu'on arrivera à un écroulement des pensions.
Quand je suis rentré dans la vie active, mon père voyait arriver sa retraite. À 15 ans, disant c'est bien, tu vas travailler pour financer ma retraite. Moi aujourd'hui on me dit, vous allez travailler pour acheter des points. Ça change entièrement la notion et la vision des choses. Ça, c'est-à-dire qu'on travaille maintenant pour se payer sa retraite et on ne participe plus finalement au versement des retraites des générations qui nous ont précédés.
C'est justement là la subtilité de Delevoye-Macron. c'est de faire passer de l'idée de solidarité à l'idée de capitaliser pour soi-même. Et c'est ça, cette valeur du point, c'est je cotise et je mets des points de côté pour ma gueule. Je le dis comme ça. C'est ça. En 45, c'était la solidarité, c'était la répartition. On change totalement de philosophie par la valeur du point en disant je capitalise pour moi et qu'est-ce que je vais faire au bout du bout ? Je vais peut-être devoir travailler plus longtemps, je vais devoir sans doute, en dehors du système général mis en place par Delevoye, mettre en place une assurance vie, mettre en place un troisième niveau, un quatrième niveau, pourquoi pas. Mais c'est philosophiquement, c'est une remise en cause totalement de la solidarité. Ce système par points, c'est pernicieux. C'est véritablement pernicieux. C'est mis en place depuis très longtemps. Dans l'idée des gens, il va falloir mettre de l'argent de côté. D'abord, en ce moment, vous voyez toutes les publicités, c'est on met de l'argent de côté pour les retraites. Il n'y a que ça qui compte. Mais ça a déjà été fait pour la maladie. La maladie, on a mis trois systèmes. Il y a le système de sécurité sociale de base. Il y a le système ANI, enfin, l'accord national interprofessionnel, où toutes les entreprises, on a un deuxième niveau. Et une surcomplémentaire santé. Pour les retraites, ce sera exactement le même système. Il y a de l'argent, il y a 310 milliards, 315 milliards à récupérer de pognon, un pognon d'ag, comme dit l'autre, il y a un pognon d'ag à récupérer, ben, il est hors de question que les assurances et les banques passent à côté. Ils veulent récupérer le pognon, et c'est ce que Macron et Delevoye veulent mettre en place. On est dans le système de l'ultralibéralisme, c'est du thatcherisme, c'est du Reagan, c'est exactement la même philosophie politique et économique.
Dans le cadre des émissions, débat pour fêter les 40 ans de Radio Quinquin. Aujourd'hui, on débat de la sécurité sociale et de la réforme des retraites. Suite de ce débat, dans un instant, sur Radio Scarpe Sensé. Just woke up, I can see it now. It's never been. Tried to tell myself I didn't care. Crying now, why am I here? There's no point in me hiding. Lonely now, I can't see. Every day now. Every day now. Aujourd'hui sur Radio Scarpe Sensé, dans le cadre du programme Réécoutez-vous vivre et lutter avec Radio Caquin pour fêter les 40 ans de la création de cette radio bigeoise, débat autour du film La Sociale, le film de Gilles Perret, et on parle de la sécurité sociale bien évidemment, mais également de la réforme des retraites avec Dominique Benne, responsable de la protection sociale à la CGT, Pascal Zabot, responsable protection sociale de l'UD Nord CGT, Michel Saint-Lingue, syndicaliste, FSU, ex-secrétaire général de la Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique, Bernard Lamiran, animateur national du Comité National pour la Reconnaissance d'Ambroise Croizat. Et puis, on peut se poser la question, à la veille des manifestations du 5 décembre, finalement, ces manifestations, elles doivent porter sur quel message ? Est-ce que l'on doit s'inquiéter pour son avenir ou alors s'inquiéter pour l'idée d'une solidarité nationale à travers le dispositif de la sécurité sociale ?
C'est défendre la sécurité sociale, j'allais dire, c'est tout. Défendre la sécu dans les fondements de 45, la solidarité, le salaire socialisé. On a peu parlé du salaire socialisé, mais c'est l'idée même, c'est le salaire socialisé. On a laissé trop faire au niveau des organisations syndicales, quelles qu'elles soient. On n'a peut-être pas assez expliqué ce qu'était le salaire socialisé. Moi, je travaillais à la Sécu. Quand je parle de salaire socialisé à mes collègues, ils ne savent même pas ce que c'est. On est obligé de réexpliquer la base de la sécurité sociale. Et le 5 décembre, effectivement, il n'y a qu'une chose à faire, c'est défendre la sécurité sociale et le salaire socialisé.
Dominique Benne, on va vous donner la parole et vous ne serez pas très long pour qu'on puisse tenir le timing. Mais on est dans les temps, tout va bien. Dominique, les syndicats ont leur part de responsabilité dans ce qui arrive aujourd'hui ?
Bon, je ne dirais pas exactement ça, parce que la CGT, quand tu posais la question, le 5, est-ce qu'on attend le 5 ? Le 5, oui. Il y a notre régime de retraite, il faut s'opposer au régime de retraite qui nous est proposé. Il n'est pas question pour nous de casser la solidarité et cette solidarité intergénérationnelle dont vous parliez depuis tout à l'heure. Derrière la retraite, mes camarades ont très bien expliqué, c'est la sécurité sociale. Cette sécurité sociale, c'est intolérable pour le capitalisme aujourd'hui d'avoir une sécurité sociale solidaire. Il faut se le dire, c'est intolérable. Et pourquoi en 45 on a réussi à avancer, nos prédécesseurs ont réussi à imposer, notamment avec Ambroise Croizat, cette sécurité sociale. Il y a le rapport de force. Une CGT forte. Un parti communiste à 27%. Mais il y a aussi, ne l'oublions pas, un patronat qui sort de la collaboration avec le fascisme, qui doit aussi savoir raison garder et se faire tout petit. Mais il n'en demeure pas moins que, dès sa naissance, et même avant sa naissance, la sécurité sociale est attaquée.
Si on reprend le contexte aujourd'hui, les inégalités n'ont jamais été aussi énormes entre les très riches et les très pauvres ou les gens ordinaires. J'ai envie de dire, il y avait le passé collaborationniste, mais aujourd'hui, il y a également une réelle injustice qui pourrait motiver un tel mouvement de fond, finalement, pour défendre la sécu.
La pauvreté, les injustices, c'est ce qui a mobilisé récemment les Gilets jaunes. C'est ce que la CGT, la FSU, depuis un bout de temps où on est ensemble dans les manifestations, on dénonce, mais en faisant des propositions aussi. Ce n'est pas le tout de dire on est contre la réforme de Levoy. On dit, nous, on a un régime de retraite qui est le meilleur au monde. Est-ce qu'il faut réformer pour, par exemple, que les pensions des femmes soient égales aux pensions des hommes ? Parce qu'elle l'a dit, il suffit que dans les entreprises, ils touchent le même salaire que les hommes. Il n'y aura plus de problème au niveau des pensions, au niveau d'égalité. On nous parle de déficit de la sécurité sociale, ce fameux trou dont on parle tout à l'heure au niveau de la sécurité sociale. Mais quand même, qu'on réfléchit un petit peu, quand nos jeunes se disent aujourd'hui, de toute manière, la retraite, parce qu'on essaye de mettre dans la tête des jeunes, on ne la verra pas, notre retraite. On sait qu'on ne la verra pas, notre retraite. Sixième puissance économique mondiale. À la libération, une France en ruine, une Europe en ruine, et on arrive à créer une sécurité sociale. Et aujourd'hui, il n'y a pas de pognon qui circule en France, en Europe et dans le monde. Et on ne serait pas capable de dire aux gens, vous allez vous soigner, pouvoir vous soigner, y compris gratuitement sans mutuelle. Vous allez travailler toute votre vie, mais vous ne pourrez pas avoir une pension digne de ce nom. Et dire à nos enfants, par rapport à la branche famille de la sécurité sociale, il n'y aura plus de prestations ou elles seront en diminution pour les familles. Et pour nos enfants, vous n'avez plus de vacances, plus de colonies de vacances, plus de santé aérée, etc. etc. C'est impensable, ça. Aujourd'hui, comme on parle de finances, est en débat et a été adopté en première lecture, même si je le dis très sereinement, je vois des députés de La République En Marche qui viennent défendre leur hôpital public. Ils défendent leur clocher, là. Il ne faut pas toucher à mon hôpital public. Sauf qu'ils viennent de voter en première lecture à l'Assemblée nationale le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il faudrait peut-être arrêter les plaisanteries et dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Parce qu'à un moment donné, quand on regarde ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est 4 milliards d'économies qui est demandé une fois de plus à l'assurance maladie. C'est une indexation, une sous-indexation à 0,3% des pensions, alors qu'on sait que l'inflation va être à 2. Déjà, il y aurait une perte de pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'avec les économies qu'on demande à l'assurance maladie, on va pénaliser une fois de plus l'hôpital public de ressources. Et le système qui est fait par les retraites, pour les retraites, c'est exactement le même système. Alors quand on relie le tout bout à bout, ben, c'est donner la sécurité sociale, clé en main, au marché assurantiel. C'est ça qui est recherché par les gouvernements successifs.
Vous disiez tout à l'heure, à la CGT, on a des propositions. Lesquelles sont-elles? Elles visent à quoi? À rendre plus accessible l'accès aux soins, le droit à la santé, le droit à la retraite. Mais comment?
Ben, déjà, je ne sais pas si tout le monde a vu sur les banderoles de la CGT, la FSU, mais je ne vais pas parler pour vous.
Hein. Pas loin.
Emploi, salaire, protection sociale, sécurité sociale. Pourquoi salaire? Ben, si on augmente le salaire, une augmentation générale de salaire d'un pour cent, c'est 2 milliards de plus de recettes dans la sécurité sociale. Si on crée 100 000 emplois, c'est 1,5 milliard de plus dans les caisses de la sécurité sociale. On voit dans les entreprises que les conditions de travail se dégradent. Parce que le seul objectif de gestion dans les entreprises, y compris dans le privé, on l'a dit tout à l'heure, mais dans les entreprises privées, c'est de regarder le montant des dividendes qui vont être versés aux actionnaires. La France est championne d'Europe de versement des dividendes aux actionnaires. Vice-championne du monde, derrière les Américains et devant les Japonais, des reversements des dividendes aux actionnaires. Sur le deuxième trimestre, là, 51 milliards d'euros viennent d'être versés aux actionnaires. On ne pourrait pas soumettre à cotisation, comme la CGT le propose, soumettre à cotisation l'ensemble des revenus financiers. C'est 31 milliards qui rentrent dans les caisses de la sécurité sociale. Rajoutez à ce que Pascal a dit tout à l'heure, c'est l'égalité homme-femme, qui chiffre entre 5 et 6 milliards. L'emploi, passé aux 32 heures hebdomadaires, avec un SMIC à 1 800 euros, ben voilà, mes amis, je pense qu'on n'a plus de soucis sur le financement de notre sécurité sociale.
Et revenir sur les exonérations.
Et revenir aussi sur les exonérations, c'est 20 milliards par an d'exonération pour le patronat. Je pense que rien que là, les propositions de notre organisation syndicale, elles se suffisent elles-mêmes pour financer la sécurité. Et si tu me permets, il faut revenir quand même à la gestion que nous, Bernard a parlé tout à l'heure. Il faut revenir à la gestion, il faut que les assurés sociaux se réapproprient la gestion de leur caisse, donc de leur sécurité sociale, et revenir à des élections des administrateurs comme ça se passait avant.
Vous avez évoqué tout à l'heure la colère exprimée par le mouvement des Gilets jaunes, j'entends également chez eux, il y a trop de prélèvements finalement, voilà, il y a trop de salaires socialisés. Le 5 décembre, si vous vous retrouvez dans la manif, c'est quoi? C'est également le moment de discuter, ce temps d'explication nécessaire pour leur expliquer que ce qu'ils vivent, vous le savez, c'est compliqué pour eux, mais que le système, il faut le changer, mais pas de cette façon-là, pour garder toujours ce niveau de salaire socialisé qui est indispensable à la solidarité.
On n'a pas entendu le sac des sables.
pour les rencontrer.
Non, mais on a participé aussi, quand ils étaient rassemblés à leur rassemblement. Ce qui nous gênait, c'est d'être simplement dans l'aéroport et pas lutter dans l'entreprise. Parce que dans l'aéroport, je le dis, en félicitant la mobilisation et faire vers le mécontentement. Mais ça ne va pas suffire. Il faut aussi dans les entreprises qu'on aille mettre en débat la grève. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on va faire, le 5, mais après le 5. Dès le 6, il faut les assemblées générales dans les entreprises pour débattre de comment on continue le mouvement. Alors avec les Gilets jaunes, effectivement, moi j'ai le tour à Dunkerque. J'étais à Dunkerque quand on a fait une manifestation commune avec les Gilets jaunes. Chacun a fait la prise de parole. Et ils ont dit plus d'impôts. C'était tout au début. Plus d'impôts, plus de charges. Déjà charges, j'ai dit c'est pas trop là qui perdent. Moi, il n'y a pas de charges. Et je leur ai expliqué, moi je veux payer des impôts. Certes, il faut une meilleure répartition des impôts, il faut aussi que les plus riches crachent au bassinet. Mais les impôts, ils servent aussi à nos services publics. On ne peut pas avoir une société sans impôts. Et puis les chers, c'est les cotisations sociales. C'est le salaire socialisé dont Pascal parlait tout à l'heure et qu'il nous faut garder parce que c'est aussi, Ambroise Croizat l'avait dit, se procurer un revenu dès lors qu'on ne peut pas se le procurer par le travail. C'est aussi ça, le salaire socialisé. Donc là, effectivement, que j'en termine là, avec non seulement avec nos amis Gilets jaunes, non seulement avec eux, mais c'est à l'ensemble de la population, jeune ou moins jeune, parce que nous, contrairement au gouvernement et au patronat, on ne veut pas les opposer les uns et les autres, parce que lui, Macron, aujourd'hui, oppose toutes les catégories aux uns aux autres. Nous, c'est de dire, on a un intérêt commun, il faut être solidaire, il faut se battre tous ensemble. Et l'héritage que nous ont laissé nos aînés ne nous appartient pas. Nous avons le devoir de transmettre aux plus jeunes générations.
Michel Salin.
Oui, juste un petit mot là. Tu évoquais les gilets jaunes et tu disais c'est surtout dans l'entreprise qu'il faut se battre. Juste un chiffre. Jusque début des années 1980, dans la production des richesses créées dans les entreprises, 75% allaient aux salaires et aux cotisations sociales. Aujourd'hui, il n'y a plus que 65%, il y a eu 10 points de perdu. Et c'est là que la question, elle se trouve. C'est là que la solution au problème de la Sécu se trouve aussi. Et c'est là aussi que se trouve la solution au problème posé par les Gilets jaunes, qui passe d'abord par des augmentations de salaire.
Pascal Zabot.
Oui, quand on fait des projections, parce que de Levoy et consorts, on ne cesse de nous faire des projections en 2050, etc. Et effectivement, il y aura entre 6 et 7 millions de retraités en plus, dont je fais partie d'ailleurs. Mais ce qu'il oublie de dire dans cette logique, dans cette démonstration ô combien subtile et mathématique, c'est que dans le même temps, le PIB va augmenter de 50% environ, parce qu'il y a une croissance environ 1,3 à 5, bon an, mal an, 1,3 à 5 tous les ans. Ce qui fait qu'on va passer d'environ 2000 milliards de PIB à 3000 milliards de PIB à l'horizon 2050. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 1000 milliards ? Est-ce qu'on va les donner aux dividendes et aux actionnaires, comme on continue de le faire allègrement, ou on va dire il faut réfléchir sur cette répartition, les retraités, on a de quoi les retraites, on a de quoi les financer avec 1000 milliards d'euros en plus d'ici l'horizon 2050. C'est tout simple, c'est pas compliqué. Bah, si je peux calculer comme ça, je pense que Macron et consorts, ils peuvent le faire aussi.
Et le mot de la fin, c'est pour Bernard Lamiran.
Oui, ben, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit maintenant, mais simplement une petite précision. Vous avez pu entendre tout à l'heure le patron ce qu'il disait, et Kessler des assureurs. Leur objectif, c'est de toucher à ce que Croizat a mis en place en 1945, c'est-à-dire la cotisation. Faire en sorte qu'elle disparaisse. Cotisation des salariés, alors il dit, ben, ça va rentrer dans vos salaires. Donc ça part au salaire, donc vous allez avoir un peu plus. Et cotisation non pas de l'employeur. Croizat n'a jamais parlé de cotisation de l'employeur. Cotisation de l'entreprise, c'est-à-dire sur les richesses créées. Qui crée les richesses ? Ce sont les salariés. Hein ? Et cette cotisation-là, le MEDEF actuellement veut qu'elle disparaisse. D'ailleurs, elle est, pour ainsi dire, ils sont exonérés à 1,6 SMIC. Leur objectif, c'est d'être exonérés totalement. Et là rentre cette idée de l'impôt. C'est-à-dire que les gilets jaunes, il faut les interroger là-dessus. Parce que l'objectif, c'est effectivement d'augmenter les impôts. Et qui paiera les impôts ? Ce ne sera plus les patrons, évidemment. Eux, ils seront complètement exonérés de tout ça. C'est les salariés. C'est y compris tout le peuple, tous les gens, les artisans, commerçants, etc. C'est-à-dire augmenter les impôts d'une manière importante, mais en faisant des économies, c'est-à-dire en donnant le moins possible sur les questions de protection sociale, parce que c'est ça le fond.
Et enfin, la toute dernière question, il n'est pas trop tard. Le 5 décembre, ça sert encore à quelque chose. On peut encore dire non et espérer qu'il y ait une machine arrière ou...
C'est pour ça qu'on va se mobiliser très fortement le 5 décembre et après, comme je te disais. Mais en même temps, ça pas simplement pour s'opposer, parce que ce qu'on a oublié de rappeler, c'est que nous, on exige la retraite pleine et entière à 60 ans pour toutes et tous. Avant, pleine et entière aussi pour les salariés qui auront effectué des travaux dits pénibles. Et aucune pension en dessous du SMIC que nous revendiquons à 1 800 euros. C'est possible. Et Macron le sait très bien que c'est possible, mais il faut faire un autre choix politique et une autre répartition des richesses créées dans ce pays, richesses, comme l'a rappelé Bernard, qui sont créées quand même par les travailleurs dans ce pays.
Je vous remercie en tout cas d'avoir été très clair dans vos propos et de pouvoir survoler, peut-être, on aurait pu s'apesanter davantage, mais il est déjà tard. Et puis, il y a un timing à respecter parce que demain, notre camarade est à 6h30 dans le studio pour être à 7h30 en direct à l'antenne avec Jean-Jacques pour la revue de presse. Et puis, on se donne rendez-vous demain ici, 18h30, sur un débat radiophonique. Quelle industrie et pour quel développement économique de la région dans le cadre de cette semaine où l'on se plaît à faire revivre Radio Quinquin, réécouter vous vivre et lutter avec Radio Quinquin. Demain, émission radiophonique et débat à partir de 18h30. Merci, bon retour. Merci. Et bonne soirée.